Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Son ancêtre est célèbre, Adelbert, pour sa réplique à Hugues Capet, le fameux « Quitte à faire roi ». Ceux qui l'ont précédé étaient prince de Chalais, comte d'Excideuil, baron de Beauville et de Mareuil, comte de Périgord. Il s'agit bien sûr de Charles Maurice de Talleyrand. Périgord. Dans ses ancêtres, on compte un cardinal, Élie de Périgord. Alors son épitaphe à Rome est absolument amusante, parce qu'elle va s'appliquer tout à fait à notre héros. Alors voici l'épitaphe qu'on voit sur le tombeau de ce cardinal. « Léger de religion, ayant poursuivi les biens terrestres. » En tant qu'aîné, il aurait dû, comme ses ancêtres, entrer dans l'armée. Le père de Talleyrand, Charles Daniel, est mort lieutenant général en 1788. Seulement voilà, à l'âge de 4 ans, il est né le 2 février 1754, lorsqu'il a été confié à une femme, comme toujours, ces grandes maisons confiaient leurs enfants à des nourrices, eh bien cette femme le laisse tomber d'une commode. Il se démet le pied, alors on aurait pu le réparer, mais faute de soins. Le pied reste déformé et la jambe doit être soutenue par une armature. Dans ses mémoires, le prince va d'ailleurs accuser ses parents d'indifférence, ce qui est vrai. Il faut dire qu'à l'époque, les enfants sont éduqués de façon extrêmement rigide. Il dira qu'il a été élevé sans tendresse. Et cette infirmité fait que Charles Maurice ne peut entrer au service du roi. Alors, eh bien, il fera une carrière ecclésiastique. C'est la coutume dans les familles nobles. On réserve une place d'ecclésiastique à un cadet. Mais lui, il n'est pas cadet, c'est l'aîné. Alors on l'envoie chez son arrière-grand-mère, la princesse de Chalais. Je rappelle qu'elle était la petite-fille de Colbert. Et au bout de 18 mois, à 6 ans, on le met pensionnaire au collège d'Harcourt. Il s'y montre indolent dans le travail. Il le sera toujours. Mais il fera travailler les autres. Alors il ne montre aucun goût pour la pratique de la religion, si bien que les parents se disent « on va l'envoyer chez l'oncle ». L'oncle, il est coadjuteur de Reims, donc à 15 ans. Voilà donc notre Talleyrand qui s'en va à Reims. Il a 15 ans et il porte déjà la soutane. Les parents se disent, dans cette atmosphère religieuse, peut-être que les choses vont s'arranger. Eh bien, c'est raté. Il lit les mémoires du cardinal de Retz et il se rend compte qu'on peut arriver à beaucoup de choses en passant par le sacerdoce. Il se laisse alors conduire au séminaire de Saint-Sulpice et en confidence, il dira à un ami, « Ils veulent faire de moi un prêtre. Eh bien, vous verrez qu'ils feront de moi un sujet affreux. » À un autre, il dit, « On me force à être ecclésiastique. Eh bien, on s'en repentira. » Il pourrait se révolter, mais finalement, il y a chez Talleyrand une espèce de nonchalance qui le pousse à la résignation. Donc, 1770, le voilà dans des lieux à Saint-Sulpice qui lui sont tout à fait familiers parce qu'il a été baptisé dans cette église, il y a fait sa communion. Et il en aime beaucoup la bibliothèque. Il n'est pas loin de l'hôtel où vivent ses parents, chez qui il se rend, et il se rend aussi dans un autre hôtel où vit une jeune actrice. La liaison dure 2 ans. À 20 ans, il quitte le séminaire pour terminer ses études ecclésiastiques à la Sorbonne. Le père de Charles Maurice est bien aimé de Louis XVI, et lorsqu'il sollicite pour son fils un beau bénéfice, le roi lui accorde l'abbaye de Saint-Denis à Reims. Il a 21 ans et 18 000 livres de rente. Il se sent l'étoffe d'un homme d'État. Alors il ne s'en vante pas, par prudence. Pour l'heure, il pense à gouverner un diocèse. Et alors, il se décide à demander la prêtrise. Le 17 septembre 1779, il est diacre. Le 18 décembre, il est prêtre. La veille d'être ordonné, c'est pas une crise de conscience qu'il a, mais une crise de rage. Bien avant d'être ordonné, Charles Maurice fréquente tout un groupe de jeunes gens, d'esprit distingué, élégant, raffiné. Il fréquente aussi les belles dames, en particulier la comtesse de Flahaut. Et cette dernière met au monde un fils, prénommé Charles, le 21 avril 1785, très ressemblant à Talleyrand. Il sera général et puis ambassadeur. Ses relations avec la reine Hortense, cet ambassadeur, donneront naissance à Auguste, duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, et donc petit-fils de Talleyrand. En 1780, l'Assemblée du clergé le nomme agent général. Il en fait un vrai petit ministère. Il voit les ministres, on lui trouve une autorité singulière pour aborder tous les sujets qui peuvent amener quelques frictions entre le clergé et le gouvernement. Les premiers ministres de Louis XVI n'en reviennent pas de la fermeté avec laquelle Talleyrand tranche les questions en litige. Et la plus importante de ces questions, c'est celle des biens ecclésiastiques. Les ministres ressortent une idée qui était déjà venue à Louis XIV. C'est bien là, ils pourraient bien enflouer les caisses de l'État. L'abbé de Périgord a décidé de ne pas céder d'une ligne. En attendant, il se fait inscrire dans des loges maçonniques, ça lui servira plus tard. Il se lie avec le comte Honoré Gabriel de Mirabeau, dont je vous ai déjà raconté la vie. Après que Charles Maurice a trahi ce dernier, celui-ci va s'écrier « Pour de l'argent, il a vendu son honneur et son ami. Pour de l'argent, il vendrait même son âme et il aurait raison, car il troquerait son fumier contre de l'or. » C'est raide, hein ? Mais ça n'est pas faux. En 1784, Talleyrand rencontre l'ancien premier ministre, le duc de Choiseul. Ce dernier lui parle politique et lui dit qu'un ministre doit être un homme de cour et pas un ecclésiastique. Alors là, Talleyrand, il fait l'amour. Hein. Mais il ajoute qu'il a toujours fait travailler plutôt que travailler lui-même. Il dit « Il ne faut pas s'enterrer sous les papiers, il faut trouver des hommes qui les débrouillent. Il faut faire travailler ceux qui travaillent. » Alors, à ce moment-là, on peut dire que la journée a plus de 24 heures. Eh bien ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Mais enfin, il est dépité quand même quand il a entendu que quand on est un prêtre, on ne peut pas devenir ce qu'a été Richelieu, par exemple. Seulement, Choiseul a ajouté, si vous ne pouvez être Premier ministre, peut-être bien que vous pouvez être ambassadeur. Nous allons faire une première pause musicale. Donc, il a déjà ce Talleyrand, un revenu, n'est-ce pas? Mais, eh bien, le papa voudrait bien qu'il soit évêque. Ça serait un revenu un peu plus important. Alors, on tâte Louis XVI. Bon, Louis XVI, il hésite à donner la mitre à Talleyrand, parce qu'il connaît la vie que mène ce dernier, et son manque de piété, mais il aime beaucoup quand même son papa, si bien qu'il cède. Et le 2 novembre 1788, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord devient évêque d'Autun. Le 26 janvier 1789, il envoie une lettre à ses paroissiens parlant de la joie de les rencontrer. Alors, il dit la joie de les rencontrer, mais pour l'instant, ça paraît pas, parce que pour l'instant, il reste à Paris. Il trouve que Paris, c'est plus captivant qu'Autun quand même. Premier jour de mars 1789, et voilà que Talleyrand se met en route pour son diocèse. Alors, un intérêt soudain pour le diocèse? Ah oui, mais pas un intérêt religieux. Il veut se faire élire par ses prêtres députés aux États généraux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les États généraux? Eh bien, Louis XVI les a convoqués, car les comptes de la France sont en très très mauvais état. Alors je vous rappelle que les états généraux, ça se compose de 3 ordres, les députés de la noblesse, les députés du clergé et les députés du restant qu'on appelle le tiers état. Quel est l'état d'esprit du diocèse dont il veut se faire élire Talleyrand? Eh bien le bas clergé, ce qu'on appelle le bas clergé, ce sont les prêtres des paroisses les plus ordinaires. Ben ce bas clergé, il est pour les idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, qu'est-ce que c'est? C'est représentation nationale, contrôle et égalité des droits. Alors Talleyrand flaire le vent. Et son discours va dans ce sens. Si bien que le jeune évêque, ben il a beaucoup plu. Et le 2 avril, il est élu par son clergé à une très grosse majorité. C'est bien joué, hein? La veille de Pâques, vous vous rendez compte, il ne reste même pas à Pâques dans son diocèse. La veille de Pâques, il reprend le chemin de Paris et le diocèse ne le reverra plus. Le 5 mai, les États généraux se réunissent à Versailles. Alors la question, est-ce qu'on va voter par ordre ou par tête? Par ordre, c'est une voix pour le clergé, une voix pour la noblesse, qui sont évidemment les deux États privilégiés, et une seule voix pour le tiers État. Mais si on vote par tête, alors là, ça risque de changer la donne. Donc, négociation, le 22 juin, le clergé décide de se joindre au tiers. Alors, le roi n'est pas content, il ordonne que les ordres votent séparément, ben oui, parce que ça va être de son côté. Eh bien, le tiers État refuse d'obéir. Et Louis XVI capitule. Et ça, c'est une grosse faute. Il ne cessera de capituler. Il n'y aura donc qu'une seule assemblée. 14 juillet, prise de la Bastille. Le 17 juillet, Talleyrand décide de ne pas quitter la France, à moins d'y être contraint par un danger personnel, de ne point élever d'obstacle entre l'occasion et lui, dit-il, et de se réserver pour l'occasion. Les relations que Charles Maurice a à ce moment-là, pour l'aider. L'éloge maçonnique, Lafayette, Sieyès, je vous rappelle que Sieyès était chartrain, il était grand vicaire, vous pouvez trouver une plaque où était sa maison en bas de la rue de l'Étroit Degrés. Condorcet, Mirabeau, tout ça que finalement, ça lui est facile de basculer dans le camp de la Révolution. À l'Assemblée qu'on appelle à ce moment-là la Constituante, il a de l'influence surtout dans l'affaire des finances publiques. C'est pour cela que les États généraux ont été convoqués. L'état du trésor devient de plus en plus catastrophique. Donc le ministre qui était Necker à l'époque abandonne. Talleyrand propose alors une chose inouïe. Ben, c'est inouï quand on pense au rôle précédent qu'il a joué dont je viens de vous parler tout à l'heure. Quoi? Eh bien la reprise par la nation de la fortune ecclésiastique, tout simplement. Et cette fortune, elle est considérable. On l'estime à l'époque à près de 3 milliards. 3 milliards de francs or, figurez-vous, hein ? Talleyrand fait la proposition le 10 octobre à l'Assemblée. Il est vrai qu'il propose que la nation paye les prêtres et prenne en charge, ce qui était pris en charge par le clergé, hein, les hôpitaux, les ateliers de charité, l'éducation, la réparation des églises. Longues acclamations sur les bancs de la gauche. Vives protestations sur les bancs de la droite. En attendant, Talleyrand est de tous les comités importants. Le 14 juillet 1790, on décide de fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille. Alors, on va faire une grande fête qu'on va appeler la fête de la Fédération. On élève un hôtel tout à fait pompeux, au milieu du Champ de Mars. Et on va dire une messe. Et à qui est-ce qu'on va demander de célébrer la messe? Ben, à Charles Maurice. Alors il le fait, mais vraiment à contre-cœur. Hein. Pour lui, il trouve que c'est une mascarade. Sitôt la messe finie, d'ailleurs, il fonce dans une maison de jeu où il fait sauter la banque. Il passera sa vie à jouer, c'est une de ses passions. Hein. Le 12 juillet 1790, à l'Assemblée nationale, eh bien, on a nationalisé l'Église et on l'a réorganisée. Et c'est ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Devant la réaction du clergé, l'Assemblée institue un serment. Il faut que les prêtres prêtent serment à la constitution civile du clergé le 27 novembre 1790. Alors vous savez que certains prêtres ne voudront pas prêter serment, on va les appeler les prêtres réfractaires, et ils vont être après obligés de se cacher. Talleyrand, ça ne donne pas, lui, il prête serment. Cela l'arrange parce qu'il veut s'émanciper de l'Église. Bon, pour lui, c'est une transition. Le jour où il ne sera plus qu'un fonctionnaire de l'État, eh ben, il donnera sa démission sous un prétexte quelconque et puis il sortira de la nouvelle Église. Le 8 février 1791, on lui propose de devenir administrateur de la Seine, parce qu'on a créé des départements. Hein, donc il y a un qui s'appelle la Seine. Donc le prétexte est tout trouvé. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa démission et il signe Talleyrand Périgord, ancien évêque d'Autun. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Talleyrand. Talleyrand qui vient donc de démissionner de son poste et qui signe ancien évêque d'Autun. Et il se glisse dans la vie publique. Alors le pape outré, c'est le pape Pie VI à l'époque, hein, le déclare sacrilège, suspendu et même excommunié. Eh bien, Talleyrand rit. En fait, il rit un peu jaune quand même. Hein. Sa mère, jusqu'à sa mort, elle meurt en 1809, Eh bien, sa mère, elle continue à supplier Dieu de lui pardonner l'affreuse erreur qu'elle a commise en poussant son fils au sacerdoce. Donc voilà l'ex-évêque d'Autun, haut fonctionnaire de l'État nouveau. Cette assemblée constituante est dans l'ensemble pas très intelligente, et Talleyrand voit qu'elle va entraîner le pays vers des catastrophes. Alors, il se rapproche de la cour. Si le roi, la reine et leur entourage veulent bien se confier à lui, il pourrait, par ses conseils, sauver le trône menacé. Il y en a un autre qui a fait ça, hein, c'est Mirabeau. La cour ne l'écoute pas plus qu'elle n'a écouté Mirabeau. Et c'est la tragédie de Varennes. Charles Maurice alors trouve que ça sent pas très bon et il pense qu'il faudrait bien qu'il s'éloigne. Il est dégoûté, ben on peut le croire, oui, parce qu'il reste quand même un autocrate qui a horreur des excès en tout, et particulièrement il a horreur des excès de la foule. Pour tout dire, il est dégoûté, mais aussi effrayé, parce que les nobles commencent à passer sous la guillotine. Alors pourtant il se dit, je ne vais pas émigrer, parce que si j'émigre, je vais être sur la liste des émigrés. L'Europe s'arme, la France est menacée par les puissances allemandes, elle cherche des appuis à l'étranger. Alors, comme ça tombe bien, on demande à Talleyrand d'aller voir si l'Angleterre, par exemple, ferait l'affaire. Tout content, il quitte la France, il arrive à Londres le 24 janvier 1792. Il va rendre visite au ministre. Ministre, c'est Pitt le fils, parce que le père a déjà été ministre. Et il l'a connu en France, alors il dit, bon, les choses vont s'arranger. Ben, pas du tout, parce que Pitt lui fait une triste figure. Il ne veut pas de guerre, et puis en plus, Pitt, il n'aime pas la France. Alors Talleyrand rentre en France, Dumouriez, chef des relations extérieures, vient le voir. Le 20 avril, la guerre est déclarée à l'Autriche. On ne peut nommer l'évêque, l'ancien évêque d'Autun. La constituante a interdit à un de ses membres tout emploi public. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de Talleyrand ? Eh bien, Talleyrand, on le renvoie officieusement à Londres. Tout ce qu'il peut obtenir, c'est une neutralité de la Grande-Bretagne. Et en aucun cas, elle ne veut entrer en guerre avec la France. Le 20 juin 1792, le peuple envahit les Tuileries. Cette agitation à Paris fait peur à Londres. La nouvelle assemblée, qu'on appelle assemblée législative, comprend beaucoup de violents. Le 10 août 1792, c'est la chute du trône. Ce jour, l'assemblée élit un conseil exécutif dont fait partie Danton. Et ce dernier comprend quel parti il peut tirer de l'ex-évêque d'Autun. Alors, il est revenu en France, l'ex-évêque d'Autun, pour dire que finalement, ben non, l'Angleterre ne veut qu'être neutre. Alors Danton dit, eh bien, retournez donc à Londres. Eh ben ouf, se dit Talleyrand, il fait bien d'être à Londres, parce que on a découvert l'armoire de fer des Tuileries, et dedans, on a découvert les papiers concernant évidemment, son offre de conseil au roi. Le 5 décembre, la nouvelle assemblée, qui s'appelle la Convention, décrète qu'il y a lieu alors d'accusation contre Talleyrand Périgord, ci-devant évêque d'Autun. On continue à lui donner son titre. Le 28 mars 1793, le nom de Charles Maurice se trouve sur la liste des émigrés avec 17 membres de sa famille qui, tous, le renient. Alors, que faire ? Eh bien, nous allons faire déjà une troisième pause musicale. Thank you. Donc, notre Staller en Périgord se demande quoi faire. Il est en Grande-Bretagne, il est sur la liste des émigrés. S'il rentre, il est bien sûr arrêté et guillotiné. Alors, pour l'instant, il reste en Grande-Bretagne, parce qu'il y a retrouvé tout un groupe d'émigrés, dont Madame de Staël. Mais comme il poursuit ses relations avec l'opposition, Pitt s'en inquiète. Et le 28 janvier 1794, Talleyrand reçoit l'ordre de quitter l'Angleterre. Alors, où aller ? Bah, pas en France, bien sûr. Eh bien, il pense à l'Amérique. Et il part. Il se fixe à Philadelphie. Son but, qui sera le but de toute sa vie, s'y refaire de la fortune. D'ailleurs, il le dit, hein. Il devient homme d'affaires. Pendant ce temps, en France, on a changé de régime. Ce n'est plus la terreur. La Convention va se dissoudre. On va faire un nouveau gouvernement qui va s'appeler le Directoire. Madame de Staël fait jouer toutes ses relations pour que Talleyrand puisse rentrer en France. Eh bien, elle va gagner. Parce qu'octobre 1795, il est rayé de la liste des émigrés. Donc il peut rentrer. Eh bien, comme toujours, il ne se précipite pas. Il ne s'embarque que le 13 juin 1796 sur un navire danois. Sa rentrée ne passe pas inaperçue. Un jeune officier, Napoléon Bonaparte, écrit à son frère « Le célèbre évêque d'Autun et le général Montesquieu ont la permission de rentrer. » Dans le courrier républicain, on note « Monsieur de Talleyrand-Périgord, ci-devant évêque d'Autun, émigré privilégié, est arrivé à Paris depuis 4 jours. » Donc la France est dirigée par un directoire composé de 5 conventionnels, tous régicides. Et dans le pays, on commence à sentir une contre-révolution. On en a assez tous ces excès. Charles Maurice pense alors à se mettre en avant, à se faire apprécier. Il a été élu membre de l'Institut National, une académie nouvelle, constituée d'écrivains, d'artistes, de savants, de penseurs. Tout de suite, il y lit un mémoire sur les avantages à retirer de colonies nouvelles dans les circonstances présentes. Et il y soulève toute la question internationale, c'est ce qui va le passionner toujours, hein. Il pense, même s'il ne le dit pas, que finesse, mesure, c'est ce qui manque le plus à la conduite de la Révolution vis-à-vis de l'Europe. La France n'a pas tiré de ses victoires, bon, je rappelle une au moins, Valmy, hein, le 20 septembre 1792, la France n'a pas vu qu'il fallait un petit peu réfléchir et ne pas se mettre l'Europe à dos. Plutôt que de se lancer dans une série de conquêtes, Talleyrand dit « il faut négocier », c'est ce qu'il saura faire toute sa vie. Pour l'instant, les affaires étrangères sont entre les mains de Charles de la Croix. Talleyrand a tout fait de le faire écarter. Écoutez bien la suite. En même temps qu'il séduit sa femme, la femme de Monsieur Delacroix, il naîtra un Eugène Delacroix, le peintre célèbre, dont la ressemblance avec Talleyrand est absolument frappante. Barras, l'un des directeurs, aussi roué que Charles Maurice, le nomme alors aux relations extérieures, le 30 Messidor de l'an 5. Oui, on utilise encore le calendrier républicain. Alors, je vous traduis, c'est le 18 juillet 1797. Talleyrand répète alors « Nous tenons la place, il faut y faire une fortune, une immense fortune ». Au moment où Talleyrand devient ministre des Relations extérieures, Bonaparte est au pinacle. Il a vaincu les Autrichiens, il a soumis l'Italie. Du château de Montbello, près de Milan, il règne vraiment sur la péninsule et traite personnellement avec l'Autriche, sans s'occuper de Paris. Charles Maurice a tout de suite vu que Bonaparte sera l'homme du lendemain. En parlant de lui, il dit « Il y a là de l'avenir ». Et il envoie une lettre sans l'autorisation du directoire. « J'ai besoin de me rassurer par sentiment de ce que votre gloire doit apporter de moyens et de facilité dans les négociations. Le nom seul de Bonaparte est un auxiliaire qui doit tout aplanir. » Le style plaisant est si différent du ton absolument rude et plat des révolutionnaires que finalement ce jeune soldat, qui est bien né, il trouve que cette lettre est bien agréable. Et il répond à Talleyrand « Le choix que le gouvernement a fait de vous pour ministre des Relations extérieures fait honneur à son discernement. Il prouve en vous de grands talents, un homme étranger aux égarements qui ont déshonoré la Révolution. » Alors, voilà les deux hommes absolument enchantés l'un de l'autre. J'ajoute pour l'instant. 18 fructidors, coup d'État au directoire, nouveau directoire avec seulement 3 membres au lieu de 5, et à la tête, toujours le même Barras. Tous les jours davantage, Talleyrand méprise ses directeurs qui sont vraiment médiocres. Et qui plus est, il avait espéré être l'un des trois. Dès les premières semaines, il a sans scrupule posé cyniquement la règle qui présidera toute sa vie. Il ne ferait rien pour rien. Un diplomate étranger écrit qu'il aime l'argent. À entendre Barras, les pourboires de Talleyrand, après 12 mois de ministère, dépassent les 10 millions. 20 ans plus tard, Chateaubriand dira « Quand Talleyrand ne conspire pas, il trafique ». Méprisant les directeurs, Charles Maurice se tourne de plus en plus vers Bonaparte. Quand celui-ci arrive le 5 décembre 1797, le ministre se jette littéralement sur lui. Ce dernier a discerné dans ce grand seigneur dévoyé une supériorité d'esprit et de vue, dont il entend se servir. D'ailleurs, dès son arrivée, il a demandé un rendez-vous au citoyen Talleyrand-Périgord. Ce dernier donne une fête splendide en l'honneur de Bonaparte. Alors, ce dernier arrive à convaincre le directoire que débarquer en Angleterre, qui est notre ennemi, finalement c'est impossible. Et il y a une meilleure idée, c'est de l'attaquer en Orient, de s'établir par exemple en Égypte. Et cette vision correspond tout à fait à celle de Talleyrand, si bien que le 8 pluvieux de l'an 6, 27 janvier 1798, il fait un rapport à ce sujet au directoire. De l'Égypte, il serait possible de menacer l'Empire anglais des Indes. Et de plus, à Sandoz Rollin, qui est le ministre de Prusse, Talleyrand confie qu'il compte sur l'expédition d'Égypte pour éloigner l'attention et les forces du gouvernement de ces idées révolutionnaires qui ont finalement bouleversé toute l'Europe. Le 16 février, Bonaparte donc revient de sa tournée sur les côtes de la Manche et de l'Océan. C'est là qu'il a vu que c'était pas possible de débarquer en Grande-Bretagne. Il va voir Talleyrand et tous les deux arrivent à convaincre le directoire qu'il faut préparer une expédition. Donc, on part de Toulon. Bonaparte en prend le commandement. Je ne m'étends pas dessus. Le directoire n'est pas fâché. Pourquoi ? Parce que comme ça, Bonaparte va s'éloigner de la France. En attendant, penchons-nous un peu sur la vie privée de Charles Maurice. On a vu apparaître un soir, en visiteur privilégié, dans les salons du ministre, une femme extrêmement belle qui s'installe et qui vraiment a l'air d'être la maîtresse de l'hôtel particulier. Cette dame qui sait, c'est Madame Grand, née Catherine Worley. Elle est indienne parce qu'elle est née à Pondichéry. Elle a épousé un agent de la Compagnie des Indes, un Anglais qui s'appelle Georges Grand. Amenée en France par un de ses amants, elle fait sensation parce qu'elle est vraiment très très belle. Suspectée d'espionnage, elle est venue se disculper auprès du ministre des Relations extérieures. Et pan ! C'est le coup de foudre du côté de Charles Maurice. et on se demande comment un personnage aussi raffiné a subi à ce point l'attraction d'une femme dont l'ignorance, la nullité intellectuelle vont être bientôt aussi célèbres que sa beauté. Eh bien oui, on sait bien que Talleyrand est insensuel, et c'est par là qu'elle le tient. Son tableau de chasse, si on peut dire, est absolument éloquent. Il épouse Catherine. Un jour, Bonaparte, premier consul, dira à Talleyrand, « Votre femme n'est, paraît-il, pas trop sotte ?» Et Charles Maurice de répondre, « Mon Dieu, elle a l'esprit d'une rose. » On peut aimer les roses sans leur demander plus que leur parfum. Talleyrand est de plus en plus attaqué dans les journaux. Comme il pense que le directoire vit ses derniers jours, il préfère donner sa démission, et elle est acceptée. Alors il s'en va, mais le jour où un nouveau gouvernement s'instaurerait, celui-ci saurait où trouver le sage qui réconcilierait la France avec l'Europe. Ben, vous avez deviné qui, bien sûr. Tout à coup, voilà que le vainqueur des pyramides, Bonaparte, débarque d'Égypte à Fréjus. Il marche vers Paris. Il y arrive le 16 octobre au soir. Talleyrand, bien sûr, se précipite chez lui. Dès le lendemain matin, il est reçu à bras ouverts. Deux hommes seuls comptent dans le directoire, c'est Barras et Sieyès. Alors Talleyrand, même s'il n'en fait plus partie du gouvernement, a continué à les fréquenter. Si bien que Bonaparte charge l'ancien évêque d'Autun d'endormir Barras et de gagner Sieyès à sa cause. Barras sait bien que le directoire est à bout de course. Alors Talleyrand vient le voir le 17 octobre 1799 et lui dit que Bonaparte, personnellement, n'envisage que d'être le chef des armées, c'est tout, qu'on ne gardera qu'un chef au directoire et que bien sûr ce sera lui. Quant à Sieyès, il n'aimait pas beaucoup Bonaparte. Charles, donc les faits se rencontraient. Conseillé par lui, le général Bonaparte dit à Sieyès que la France n'a pas la constitution qu'il faut et il ajoute « c'est à votre génie qu'il appartient de nous en donner une ». Alors évidemment, la terre ne porte plus Sieyès. Talleyrand, présent à l'entretien, pense que là, Bonaparte est un excellent élève. Sieyès estime alors que Bonaparte est un homme vraiment d'esprit et qu'on pouvait s'entendre avec lui. Où l'on voit bien qu'il faut toujours commencer par donner des points à l'adversaire. 18 Brumaire. À l'aube, Talleyrand arrive chez Bonaparte. Ce dernier se fait remettre par le conseil des anciens. Oui, en plus du directoire des directeurs, il y avait donc une assemblée qu'on appelait le conseil des anciens. Le commandement des troupes et la charge de sauver l'État. Sieyès et Ducos démissionnent. On demande à Barras de suivre leur exemple. Ce dernier est découragé et il n'a pas de résistance. Talleyrand lui a fait une belle lettre de démission en lui demandant de la signer. Au cas où Barras résisterait, on va lui proposer quoi ? Ben, plusieurs millions. Bon, finalement, il ne résiste pas. Eh bien, Talleyrand remporte les millions que personne ne va revoir. Son rôle s'arrête dès le lendemain. Bonaparte prend le pouvoir. Fidèle à son idée, il entend que sa révolution paraisse le moins possible un bouleversement. La direction du pays prend le nom de consulat. Il s'adjoint les deux anciens directeurs, Sieyès et Ducos. Et le premier frimaire de l'an 8, 21 novembre 1799, il rappelle au ministère des Relations extérieures le citoyen Talleyrand Périgord. Voici ce que le consul pense du ministre. Il dit « Il a beaucoup de ce qu'il faut pour les négociations, l'esprit du monde, la connaissance des cours de l'Europe, de la finesse, pour ne pas dire quelque chose de plus, une immobilité dans les traits que rien ne peut altérer. Enfin, un grand nom. » Le grand ministère Talleyrand commence. Il a 45 ans. On peut résumer sa pensée en disant que l'ambition a fini par dévorer toute conscience, le calcul par dessécher tout sentiment. Il est d'une intelligence acérée, la plus acérée qu'on puisse imaginer. Il envisage la politique de l'État avec froideur. Il entend ne collaborer qu'avec le seul chef de l'État. Et ça lui est acquis. Alors, est-ce qu'ils allaient bien s'entendre ? Eh bien, Talleyrand pense toujours qu'il vaut mieux avoir une politique de la mesure plutôt que de celle de la conquête. En fait, à travers les variations apparentes, il a toujours été pour la mesure. Il répète « tout ce qui est exagéré est insignifiant ». Dans un mémoire de 1792, il disait « la véritable primatie est d'être maître chez soi et de n'avoir jamais la ridicule prétention de l'être chez les autres. Il n'est vraiment pas pour les conquêtes qui ont été faites, et on verra plus tard ce qu'il va en dire. On ne l'avait pas écouté. Il redoute la politique d'expansion. Pour l'instant, Bonaparte n'aspire qu'à faire une France saine, forte, fidèle, prospère. L'instinct de conquérant de Bonaparte n'est pas endormi cependant. Talleyrand va revenir de ses illusions. En attendant, il va traiter avec l'Autriche, car il pense qu'une alliance avec Vienne servira à la fois à brider la Prusse au nord et la Russie en Orient. Il cherche une alliance avec l'Angleterre, dont il admire le gouvernement. Pourquoi Bonaparte, à qui Talleyrand au fond est antipathique, l'a-t-il gardé? Le premier consul apprécie en lui un informateur de premier ordre en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques et les choses de l'étranger. Il aime beaucoup sa conversation. Bonaparte utilise le ton rude et parfois grossier à la mode chez les soldats de la Révolution, mais il apprécie les délicatesses de langage, l'esprit affiné par l'éducation. Dans son entourage, il ne trouve guère que Talleyrand qui représente pour lui ce style de Versailles. Dans les tractations, ce dernier aura toujours la formule heureuse qui, sans rien édulcorer, envelopperont les volontés du maître. Dans ses rapports avec les diplomates étrangers, il apporte cette aisance hautaine qu'il tient de sa naissance. Metternich dit de lui qu'il est fier comme tous les Périgords. De plus, il organise et dirige son ministère de façon remarquable, se rappelant les conseils de Choiseul. Il déteste écrire, sa façon est de causer devant un de ses hauts commis qui prend des notes et rédige ensuite les dépêches que Talleyrand supervise. Napoléon sera reconnaissant à son ministre d'avoir mis dans sa main un pareil instrument. Et quand ils seront brouillés, Napoléon souvent va soupirer « Ah, si j'avais eu Talleyrand !» Nous le retrouverons la semaine prochaine. Au revoir à tous.